Bonjour à tous, bienvenue dans la pause produit. Je suis Peter, cofondateur de Yetta, un collectif produit. Chez Yetta, nous aimons les moments authentiques avec une touche de funky. Alors quoi de mieux que de faire une pause pour en avoir ? Je vous propose qu'on partage un moment avec des personnalités du monde du produit qui viendront nous parler de leurs réflexions, de leurs visions, leurs interrogations ou tout autre sujet qui leur tiennent à cœur. Alors on se fait un petit café, on se fait une pause. Bienvenue dans la pause produit. Bonne écoute. Hello Déborah, trop content de partager une pause avec toi aujourd'hui.
Salut.
J'espère que tu vas bien.
Super.
On a quand même pas mal déjà discuté un peu en off sur d'autres sujets. Mais effectivement, pour revenir à ce qui nous amène aujourd'hui dans cette pause, on a commencé à le préparer. C'est un sujet qui a attiré justement, m'a attisé ma curiosité parce que tu vas pouvoir nous faire un retour justement sur ce que tu as vécu. Le sujet dont tu as envie de nous parler aujourd'hui, c'est comment l'arrivée d'un fonds d'investissement a impacté l'entreprise. Comment vous êtes passé d'une culture un peu start-up à une culture scale-up aujourd'hui. Et le prisme qu'on va prendre et le focus, c'est la partie produit. Ce qui va nous intéresser, c'est comment c'est venu impacter la stratégie, la roadmap, le pilotage, même la culture aujourd'hui que vous avez pu avoir. Donc, plein de sujets sur lesquels on va partager. Mais avant, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es pour qu'on comprenne aujourd'hui. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet.
Super. Donc, j'y vais. Je me présente. Moi, je suis Déborah. Ça fait 15 ans que je bosse dans le produit. Product management et product marketing, un peu des deux. Et j'ai un profil généraliste. Je suis passée par plein de secteurs différents. Je suis passée par des boîtes de taille et de maturité différentes.
Ouais.
Et j'ai commencé en tant qu'entrepreneur.
Ok.
J'ai lancé en 2010 une boîte qui s'appelait illycook.com. Mmh. Et illycook, c'était un planning de menu à partir duquel tu pouvais commander toutes tes courses pour la semaine.
Super.
C'était très sympa. On voulait trouver une solution pour les parents qui ont des enfants et qui sont obligés de gérer ça. On ne voulait pas du tout de cuisine de chef. On voulait vraiment un planning hyper simple. Et on est parti là-dessus et on a commencé à développer ce produit. Ça a hyper bien marché. On avait un produit qui plaisait avec des users qui revenaient.
Qui solutionnait un vrai problème surtout.
Exactement. En revanche, le problème de ce business, c'est que on n'a justement jamais trouvé le business model. On a cherché, on a testé plein de trucs. Au début, on voulait prendre une marge sur les courses.
Oui.
Mais on n'arrivait pas à générer assez de livraisons. On est en 2010, donc autant te dire que la livraison, c'est pas la folie en France. C'est toujours pas la folie, d'ailleurs, la livraison de courses. T'as toujours des Deliveroo et ce genre de choses pour un dîner, mais la livraison de courses pour la semaine, il y a eu les drives. C'était l'époque des drives, mais,
ouais.
Mais voilà, ça a été la grande révolution. Ensuite, on a switché, on a fait de l'abonnement. Là aussi, c'était un trop gros frein pour accéder aux produits, donc on a arrêté assez vite. Et on a testé à la fin le contenu. C'est mon petit regret de ne pas être allé plus loin dans le contenu, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire. On n'en aurait sans doute pas fait une licorne, mais en revanche, on aurait pu mieux vivre de ce business. Mais bref, au bout de 3 ans, comme ça ne générait pas de revenus,
ouais.
On s'est arrêté. Et moi, j'ai rejoint une autre boîte. Mmh. Une boîte qui s'appelle So Local, qui était en 2014. C'est le groupe qui détient les pages jaunes en France. Et à l'époque, So Local, ça faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. Ils avaient réussi à migrer 600 millions dans des produits digitaux, dont 400 millions sur le site pagejaune.fr, et il restait 400 millions à aller chercher. Et pour ça, ils cherchaient des gens pour revoir un petit peu comment fonctionnait Pagejaune,
okay.
Le search de Pagejaune, et en particulier sur la partie ranking géographique. Bon, bref, un peu, on commence à rentrer dans du bon bref. Et donc, moi, j'ai rejoint parce que je trouvais que le challenge était sympa et que les gens que j'ai rencontrés étaient top. Je savais qu'ils allaient m'apprendre énormément.
Ouais.
Et donc, j'ai rejoint l'équipe. Je suis restée 5 ans là-bas.
Okay.
J'ai commencé sur un produit de ranking et à la fin, je gérais toute la gamme de ranking de pagejaune.fr. On a transformé la boîte dans le sens où c'était une boîte qui n'était pas hyper héroïste. On a créé des produits beaucoup plus héroïstes. Et à l'arrivée de Eric Boustouler, qui était le nouveau dirigeant en 2017, on a revu totalement l'offre. Donc, j'ai fait beaucoup de produits, beaucoup de product marketing, même si à l'époque, je ne m'appelais pas PM parce qu'en fait, des PM, ça n'existait pas en France et en particulier dans les grosses boîtes. Et j'ai appris mon métier, okay. Là-bas. Et puis j'ai appris aussi à évoluer dans un gros groupe et à gérer des équipes. J'y suis restée 5 ans et au bout de 5 ans, on m'a proposé de rejoindre une boîte totalement différente, une boîte qui s'appelle QuickSign,
Ouais.
qui est une boîte qui est une fintech, qui fait de la KYC. En gros, c'est tous les produits qui te permettent de contrôler l'identité de quelqu'un à distance.
Très bien.
Signature électronique, upload et lecture de documents d'identité ou. Et un peu plus large, passeport, carte d'identité bien sûr, mais aussi permis de conduire, carte vitale et ce genre de produits. Et puis reconnaissance faciale. C'est une belle boîte qui avait été montée par deux consultants et qui avait fonctionné un peu comme une SS2I, mais
Ouais.
qui avait un produit. Mais ils n'avaient pas un pôle produit. Donc moi, je
D'accord.
suis arrivée pour monter le pôle produit. Et dans le scope, il y
Trop
avait
bien.
product management, product marketing. Hyper sympa.
Ah ouais.
Hyper
Pile
sympa.
au bon moment, en plus. Ouais.
Ouais. Et donc, moi, j'arrive. Et donc, c'est une boîte qui avait deux grosses forces. Le business, d'une part, le CSM et BizDev, et les tech. Il n'y avait pas de produit au milieu. Donc, la mission était ardue. Alors, ça, c'était la première chose. Il n'y avait pas de produit. C'était un univers de très gros comptes, alors que moi,
Ouais.
j'avais plutôt l'habitude de gérer soit du B2C, soit
Ouais, c'est un
des long
changement,
tail,
ouais.
enfin, changement radical. Et produits d'intelligence artificielle, reconnaissance de l'image,
Ouais.
donc avec des cycles de développement et une façon de développer les produits très différentes. Donc, quand je suis arrivée, j'ai observé un petit peu ce qui se passait. J'ai essayé de comprendre. On a reposé la strate. Et à partir de là, on a posé une orga.
OK.
Je me suis renseignée énormément à l'époque
Ouais.
sur quels étaient les orgas, comment ça fonctionnait, est-ce qu'on fait PMPO, c'est quoi fondamentalement la différence, c'est quoi l'agilité. Bon, moi, j'ai découvert ça à ce moment-là. Et donc, j'ai monté une petite équipe d'une quinzaine de personnes, moitié product marketing, moitié product management, avec une organisation au niveau du product management que j'ai voulu la plus agile possible. Alors évidemment, moi, c'était ma première expérience de produit en tant que vraiment gestion de tout le produit. J'ai fait des erreurs, mais globalement, pour le coup, moi, j'avais une forte conviction sur il faut un PM et des squads et des gros binômes product tech. Donc ça a plutôt bien marché. Et côté, en revanche, là où j'ai développé
C'était
en
moins
plus,
bien,
c'était
ouais.
le product. Non, c'était le product marketing. Et on m'a
OK.
regardé avec des gros yeux. Moi, j'arrivais dans une boîte qui ne connaissait pas le produit. Et j'arrivais en 2018, 19, avec la notion de product marketing qui, même aujourd'hui,
Oui, c'est encore con.
est encore un peu récente. Et on m'a vraiment regardé avec des gros yeux à l'époque en me disant PMM, mais déjà PM. Maintenant PMM,
Pourquoi
c'est
un
quoi ce
nouveau
truc?
M?
Enfin, ouais, c'est ça. Et je suis restée 3 ans dans cette boîte. C'était extrêmement formateur. J'ai adoré l'intelligence artificielle et gérer ce genre de produit. Et surtout, ce que j'ai vraiment aimé là-bas, c'est qu'il y avait énormément de data
Oui.
et une maturité data telle que ça te permettait de faire plein de choses au niveau du produit, au niveau de l'analyse. Donc ça, c'était assez cool. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai décidé de partir parce que je n'étais pas forcément alignée avec la strat et l'orga qu'on prenait. Et donc, je suis partie et j'ai rejoint MangoPay. MangoPay, boîte de paiement,
Ouais.
qui à l'époque appartenait encore à une grande banque qui s'appelle Arkéa et qui avait envie de sortir d'Arkéa et de réécrire une histoire de croissance avec un fonds d'investissement. Et donc, je rejoins cette boîte. Je rejoins en tant que responsable du produit de paiement. Il y avait trois univers de produits, paiement, fraude et l'expérience, toute l'expérience qui accompagne la gestion des workflows de paiement. Et donc, je prends une équipe de 7 PM. Et la mission, c'était de construire un produit de paiement adapté au marketplace qui soit capable de scaler en Europe d'abord, et puis à terme sans doute aux États-Unis, mais
Ok. Ok.
et donc on va en parler un peu plus précisément aujourd'hui.
Exactement. Et ton arrivée par rapport au sujet qui nous amène justement le avant et après le fonds d'investissement, tu es arrivé, ils n'étaient pas encore là. Enfin, il y avait déjà cette.
Non, ils n'étaient pas encore là.
Ok.
On était vraiment
Donc en plus, écoute, tu as
en
vécu vraiment
recherche.
le changement entre les deux.
Ouais.
Super.
Moi, je suis pas restée très longtemps sans fond, puisque moi, je suis arrivée en septembre et en mars, c'était signé.
Ok, juste le temps de faire ton onboarding
C'est ça.
et on recommence.
Exactement. C'est exactement ça.
Et on recommence, ok.
Vraiment d'observer ses valeurs, ce produit,
Ouais.
et de repartir sur une feuille blanche. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé.
Ok. Comment justement s'est passée l'arrivée de ce fonds? À quel moment ça a déclenché les nouveaux sujets? Ce sur quoi ça a été? On a parlé de stratégie, culture. Tu veux démarrer par quoi?
Moi, je pense que pour comprendre l'arrivée de ce fonds, il faut comprendre un petit peu l'histoire de Mango. Je vais
Ouais.
peut-être t'expliquer
Avec
cette
plaisir.
histoire. Déjà, MangoPay, c'est une boîte qui fait du paiement. C'est un concurrent de Stripe et Adyen. C'est une API. C'est une API qui te permet d'accéder à un portefeuille de moyens de paiement hyper large quand tu crées ta boîte. Donc, je te prends un exemple. Je veux lancer une marketplace. Au lieu d'aller me connecter directement à Apple Pay, Google Pay, PayPal, les banques pour les cartes bleues, ben je passe par des prestataires externes type Stripe ou MangoPay pour
D'accord.
avoir accès d'un seul coup à tout. C'est un métier en tant que tel. Ça te permet d'éviter toute une gestion contractuelle, d'optimisation de tes perfs,
OK.
qui est un vrai métier et qui a fait que des énormes boîtes qui se sont développées. Et à l'origine, MangoPay, ça a été créé par les mêmes fondateurs que Litchi. Litchi, qui est une boîte qui fait du crowdfunding,
Oui.
avait des flux de paiement un petit peu compliqués, dans le sens où il y a plein de personnes qui envoient sur un même portefeuille électronique de l'argent. Cet argent dort pendant un certain temps, et puis ensuite il est redistribué à une ou plusieurs personnes. La boîte se prend une petite com au milieu. Bref, tu vois que le flux n'est pas aussi simple que je vais
Ouais,
payer, je récupère
c'est pas une
l'argent, quoi.
entrée-sortie.
Exactement. Et ils trouvaient pas. Litchi ne trouvait pas de boîte qui soit capable de répondre à ce besoin sur le marché. Et donc, ils ont décidé de développer leur propre solution.
OK.
Et ils ont eu la licence au Luxembourg et tout pour l'avoir. Et en fait, ils se sont rendus compte doucement qu'ils arrivaient à la vendre en tant que produit indépendant
Ouais.
à des clients. Et essentiellement à des crowdfunding comme eux ou à des marketplaces qui avaient les mêmes problèmes. Quand tu achètes sur une marketplace, tu achètes toi, tu payes 100 euros ton panier, mais derrière, tu as trois vendeurs. Donc, tu vas devoir splitter ton panier sur trois vendeurs différents. Donc, ça marchait bien. Et donc, voilà, ils se développent. Et puis, en 2015, ils se font racheter par Arkéa. À l'époque, le dirigeant s'appelait Ronan Le Moal.
Ouais.
Et Ronan, il est assez jeune, il avait envie de développer les activités de paiement. C'est une époque où on voit arriver ces
Oui.
acteurs comme Stripe avec des investissements énormes. Donc il investit là-dedans. Et ça se passe bien entre 2015 et 2018 parce qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Et en 2018, Ronan Le Moal s'en va. Et la nouvelle équipe dirigeante décide de recentrer ses activités sur les activités bancaires traditionnelles. Donc pour MangoPay, ça veut dire moins d'investissement, moins de croissance,
Oui.
tout ça dans un univers concurrentiel
Oui.
sur un marché où arrivent des Klarna, Alma, énormément d'acteurs et où clairement le secteur du paiement
Se développe, ouais.
se développe.
Évolue fortement avec,
En
ouais.
Europe en particulier.
Ouais.
Et donc, entre 2018 et 2021, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on sort. Et en 2021, donc, Romain, le fondateur, cherche à sortir, rencontre un certain nombre de fonds et finit par sortir avec Advent International, qui est
OK.
un fonds d'investissement de private equity,
OK.
très spécialisé dans les activités de paiement, et qui décide d'investir une belle somme d'argent, tout ça étant officiel, je crois, de l'ordre de 50 ou 75 millions d'euros qui réinjectent dans la boîte,
OK.
hors acquisition externe,
Ouais.
parce qu'on a grossi aussi par acquisition externe.
D'accord.
Et donc, nouvelle histoire
Qu'est-ce qu'on
pour
fait?
Mangopay, très très très. Voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est.
Ouais.
Et il faut comprendre que d'un point de vue, pour comprendre les challenges dont on va parler
Ouais.
après, d'un point de vue produit, faut comprendre ce que ça veut dire
Ouais.
au quotidien. Je pense que pour te l'expliquer. Il y a vraiment trois points pour moi qui m'ont marqué dans ce que ça veut dire de vivre avec un fonds de private equity. La première chose, c'est qu'on manage de nouveaux investisseurs.
Ouais.
Et ça se sent au quotidien, et je vais
Ouais.
t'expliquer pourquoi. La deuxième chose, c'est que les ambitions changent, le terrain de jeu change,
Ouais.
la taille
Ouais,
change.
ouais.
Et la troisième chose, c'est en effet que tu passes d'une culture startup à une culture scale-up et tu en as dessus.
Et tous les impacts. Ok.
Peut-être que je te parle de ce que ça veut dire pour moi le management de nouveaux
Ouais,
investisseurs.
j'allais te poser, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a toute une équipe d'investisseurs, en particulier de Nadven, qui arrive. Ça veut dire, pour la première chose qui va changer, c'est clairement, il y a une équipe de direction qui change. Il y a des gens
Ouais.
qui sont restés, il y a des gens qui sont partis,
Oui.
mais il y a beaucoup de C-level qui sont arrivés, nouveau CPO, nouveau CFO,
OK.
nouveau CRO, enfin bref,
Une nouvelle équipe, quoi.
une nouvelle équipe.
Équipe dirigeante.
Une nouvelle équipe dirigeante et avec des cultures différentes de ce qu'on avait avant, mais aussi différentes entre elles.
OK. Donc,
Des Amazon, des gens qui viennent d'Amazon,
Ouais.
des entrepreneurs, des... Ça fait un beau melting pot.
Qui ont été poussés par le fonds d'investissement, tu sais pas?
Bah, il y a des choses qui ont été poussées par le fond, il y a des
Ouais.
choses qui... On a racheté une boîte qui s'appelle Wenden.
Ouais. Et
Et le patron de Wenden est devenu le CPO, donc
OK.
avec une forte... culture d'entrepreneur.
Ouais.
Ça, enfin, c'était poussé par le fond, mais je sais pas à quel point, tu
Ouais,
vois.
OK.
Donc ça, c'est la première chose. Tu navigues avec des C-levels différents, avec des cultures différentes, et cette culture, elle doit à un moment s'aligner.
Oui.
Mais enfin, ça passe par... quand tu viens d'Amazon, tu as une culture à l'écrit,
Ouais.
alors que quand tu es plutôt entrepreneur, tu as plutôt une culture à
Culture
l'oral.
orale.
Ça passe par une culture hyper business pour les...
Ouais.
Pareil, hein, Amazon hyper business,
Ouais.
culture beaucoup plus produit et inspirationnelle quand tu es entrepreneur. Culture, ouais, je t'ai dit, culture écrite, culture
Ouais.
orale. Bref, tu avais des experts du paiement et des profils beaucoup plus généralistes. Donc tout ça, tu navigues dans un écosystème de gens très nouveaux.
Ouais, donc un alignement hyper complexe,
Ouais.
déjà de personnes, et ensuite de bah, il faut que ça se répercute sur une vision produit, une stratégie produit derrière.
Exactement. Et la deuxième chose, c'est que purement quand tu manages de nouveaux investisseurs, on est passé d'un management d'investisseurs qui était dans où il y avait peu de reporting,
Ouais.
ou en tout cas ça n'impactait pas les équipes, ça impactait Romain, mais peu les équipes, un reporting hyper rapproché et
D'accord,
exigeant.
ok.
Ça veut dire aussi un fonds d'investissement qui s'intéresse de très près à ce que tu fais, ce qui met une pression supplémentaire, mais ce qui est aussi ce qui montre qu'ils sont hyper intéressés par ce qui se passe. Et donc ça t'impacte au quotidien, dans ta façon de faire, dans le fait que tu vas suivre davantage les choses,
Ouais.
les mettre beaucoup plus de data ou essayer de mettre beaucoup plus de data dans ce que tu fais.
Oui, de justifier, de...
Exactement.
Ok.
Et aussi d'avoir un petit peu quand tu commences un projet, tu vas donner de la visibilité sur l'avancement et sur les résultats une fois qu'il
Oui, c'est
s'est lancé,
ça.
quoi.
Oui, c'est un changement en tout cas, de ce que vous aviez vécu avant et aujourd'hui
Exactement.
avec cet arrivé.
Donc ça, c'est le premier élément de contexte qui nous a marqué.
Ouais.
Deuxième élément de contexte, que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que le terrain de jeu,
Du coup.
parce que plus d'investissement, parce que... change énormément avec une ambition de croissance, enfin sky is the limit, tout en ayant, parce que c'est un fonds de private equity et parce qu'on est dans le contexte des 2 dernières années où la rentabilité est aussi importante que la croissance, ces deux notions-là sont tout de suite posées. Mais ça veut dire quoi pour comprendre l'impact d'un point de vue produit? C'est que, bon, évidemment, en termes de roadmap,
Champ des possibles.
Ouais, les ambitions qu'on nous pose sont énormes
Ah
par
ouais.
rapport à ce qu'on avait avant. Et les timelines pour le faire sont raccourcis.
Ouais.
Très bien. Les moyens pour le faire sont aussi démultipliés. En termes de recrutement, on a plus de moyens. Tout ça contrôlé, hein, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Et dans les méthodes. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois que je passais dans une approche buyer-build.
Ouais.
Typiquement, on avait des grosses choses à construire sur le paiement et on a dit, OK, est-ce que ça vaut le coup de le développer nous-mêmes ou est-ce qu'on rachète une boîte qui le fait déjà? Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est vraiment rentré dans une culture
Ouais.
d'acquisition par fonds d'investissement. Pardon, une acquisition externe,
Externe, ouais.
fusion-acquisition, avec d'autres boîtes. Et typiquement, dans le paiement, on a été directement impacté. Et puis, la dernière chose, quand tu as cette ambition de grossir énormément, c'est que, bah, effectivement, tu le fais. Donc, on est passé de 150 à 500 personnes en 6 mois. Ça veut dire des gens qui partent,
ouais.
des gens qui arrivent en permanence,
ouais.
des réorgs sur réorgs sur
réorgs,
réorgs,
ouais, bien sûr.
Des changements de périmètre. Et donc, tu dois t'habituer à naviguer dans cette espèce de chaos permanent et être très confortable.
Oui,
À se dire,
dedans,
ok,
oui.
bah en fait, ok, c'est normal, c'est pas grave, il y a quand même des lignes directrices qui te permettent de garder le cap et c'est pas grave.
Ouais, oui, c'est ça.
Faut bien le vivre.
Ouais, c'est ça.
C'est pas du tout un problème.
Je pense que c'est quand même pas évident, en tout cas, mais c'est hyper challengeant, je trouve.
C'est hyper challengeant. Il faut arriver quand il y a trop de choses qui. Moi, souvent, je le disais aux équipes, quand il y a trop de choses qui bougent autour de vous, refocalisez-vous sur ce que vous aimez,
Ouais,
sur
ça.
votre produit
Ouais.
et.
Prenez de la hauteur, prenez de la hauteur.
Exactement.
Top.
Et le dernier point, c'est en effet, on passe d'une culture de start-up à une culture de scale-up. Et pour moi, ça veut dire essentiellement deux choses. Enfin, la première, c'est vraiment l'internationalisation.
Ouais.
Mangopay, en 2010, 21, c'est une boîte pas franco-française, parce que tu as déjà des équipes un petit peu partout en Europe, mais qui parlent français. Mangopay, aujourd'hui, c'est une boîte qui est partout en Europe, où tout le monde parle anglais. Non-stop, où tout le monde écrit en anglais, mais même c'était déjà le cas, et où, avec des
L'internalisation.
cultures différentes, un rapport au travail différent
Ouais.
à gérer.
Ok. Ok.
Voilà, globalement, c'est ça, par exemple.
Non, mais ça permet de bien comprendre le contexte et du coup de bah maintenant de se projeter un peu plus opérationnellement avec le contexte. Tu as commencé à en parler, mais il a fallu redéfinir une stratégie claire. Je pense la communiquer, je pense la partager. Est-ce qu'on est toujours dans la co-construction ou autre? Comment ça s'est passé?
Faut que je te pars du il faut partir du point de départ. Donc il y a en 2021 la stratégie produit, enfin la stratégie globale et la stratégie produit, parce que je vais les englober,
Ouais.
sont pas bien communiquées et donc pas claires pour les gens. Elles sont dans la tête de certains C-level.
Ouais.
Elles sont pas écrites, ces
Oui.
stratégies. Et donc, ça limite la capacité d'alignement. Donc, il n'y a pas de vision sur la stratégie. Il n'y a pas d'analyse de marché pour savoir quel type de client on veut aller attaquer, quel segment on privilégie et quel segment on laisse un petit peu de côté. Il n'y a pas d'analyse concurrentielle massive partagée de manière commune dans la boîte. Il y a une culture de la data qui est un peu limitée. Donc,
Oui.
évidemment, on parle d'une API, donc la data, c'est au
C'est
cœur. Et
essentiel.
pour
Oui, oui.
monitorer, tu as 10 milliards
Oui, oui.
de transactions qui passent. Je ne parle pas de cette data-là. Je
Ouais.
parle plutôt de la data marketing et de la data usage, qui est BI, qui est peu manipulée. Et puis, tu n'as pas de backlog avec des besoins
Ouais, bah tu...
écrits et structurés, quoi. Tu n'as pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait
Au changement, ouais.
au moment où le fond est arrivé? C'est que vraiment, pour moi, l'outil qui a été utilisé, c'est qu'on a créé un document global pour l'entreprise de strates. Donc, ce n'était pas que produit, il y avait une partie produit, mais c'était vraiment global pour clarifier cette direction et la stratégie globale de l'entreprise. C'était un plan sur 3 ans.
Ouais.
Moi, ce que j'ai aimé, alors il a été construit en 3 parties.
Ouais.
Fondamentalement, on n'en a gardé que deux, parce que la troisième partie, donc c'était première partie, where to play,
Oui.
deuxième partie, how to win,
Oui.
et troisième partie, c'était la roadmap. Mais ça, pour le coup, une fois que ça a été posé, ça a tellement bougé que je l'ai
Ouais.
peu gardé, alors que le where to play et how to win, c'était, je pense que tu vois, c'est des idées que j'ai gardées pendant ces 2 années. Non-stop et qui était hyper pertinente. Ça ne veut pas dire que ça ne bougeait pas, mais c'était hyper pertinent. Le where to play, c'était vraiment l'analyse de la cible qu'on voulait attaquer. Qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, c'est qu'on a confirmé de manière chiffrée pourquoi on voulait rester sur le marché des marketplaces. La deuxième chose, c'est que au sein de ce marché, on a fait un énorme travail de segmentation, parce que derrière marketplace,
Oui, il y a
Il y
tout.
a vraiment, il y a du B2B, il y a du B2C, il y a du B2, il y a du C2C, il y a différents biens qui sont vendus. Tu as des biens physiques, tu as des biens de service, enfin bref. Donc, on a un petit peu segmenté cette base pour savoir vraiment là où on devait être les meilleurs.
OK.
Et la troisième chose, c'est que ces segments, une fois qu'on a bien identifié ce pour lesquels on était les meilleurs ou ceux sur lesquels on voulait se positionner, on les a chiffrés pour savoir quel était le potentiel à aller chercher. Donc, c'était, enfin, ça a été vraiment hyper bénéfique pour comprendre ensuite les priorités, les choix, c'est fondamental. Le how to win, pour le coup, je vais parler du produit parce que chacun a fait son travail dans son...
Ouais, c'est une question que j'allais te demander, que qui a fait ce travail-là. C'était alors, très commun, par équipe, par entité business, enfin, je sais pas moi, sales, produit, customer, enfin...
Il était structuré, le document, à la fin, il était structuré par département, même s'il y avait cette histoire commune, que tu es tous se suivaient dans le flow. Donc, tout le monde y a participé. Et pour le coup, sur la partie paiement, moi, j'avais fait largement participer l'équipe.
D'accord.
Quand on l'a travaillé à plusieurs. Chacun ayant son... Moi, j'ai récupéré l'équipe qui était présente quand je suis arrivée. C'était 7 PM. Ils avaient leur ça faisait... plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, soit qu'ils étaient dans la boîte, soit qu'ils travaillaient dans le paiement. Donc, ils connaissaient très, très bien
le périmètre, le marché.
Leur secteur, leur produit. Et donc, ils étaient extrêmement pertinents dans leur analyse.
Okay.
Et donc, la deuxième chose, donc le how to win, comment on a fait donc, le how to win, le sujet, c'était, OK, on sait qu'on veut attaquer ces marketplaces. C'est quoi notre gap analysis? Où est-ce qu'il faut qu'on travaille d'un point de vue produit pour réussir à les signer, ces clients. Donc, on a fait beaucoup de benchmarks.
Ouais.
Je parle de benchmark produit, pas forcément de l'offre, de la concurrence, vraiment le produit, qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'ils ont qu'on a aussi. Des interviews clients, des interviews prospects.
Ouais.
Très macro, je ne parle pas d'une discovery sur un sujet qu'on voulait creuser, vraiment macro,
comment ils nous percevaient. C'était à l'échelle du produit.
Ouais, okay. Voire de la boîte. Mmh. Et ça nous a permis d'identifier toutes nos faiblesses produits, et ça a été clé ensuite pour travailler nos roadmaps.
Je te coupe parce que du coup, ça me vient, excuse-moi.
Ouais, vas-y, tu rigoles.
ça me vient cette idée de ce travail-là, en fait, jusqu'où l'arrivée du fond a obligé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous a projeté dans cette réalisation. Est-ce que c'était une demande?
Ouais.
Parce que c'est quelque chose qui aurait pu être fait avant l'arrivée.
Alors, ça a été clairement, c'était dans les méthodes du fonds.
Ouais,
vraiment à la. Ça, ouais. Tu reprends les méthodes hyper strat.
Avec leur framework de dire OK, mais ça marche.
C'est vraiment la partie très rigoureuse
ouais.
que le fonds a demandé et apporté.
Oui.
Et en fait, c'était une boîte où on était 150, où les gens se connaissaient, et ça fonctionnait beaucoup à l'intuition, et ça avait fonctionné pendant des années. Mais là, on parlait.
Start-up scale-up, en fait.
Exactement.
C'est ça. Ah ouais, exactement. C'est ça. C'est comment tu. Comment tu arrives à stepper et continuer. OK, ça marche.
Et vraiment, ça a été, je pense, hyper bénéfique pour tout le monde en interne parce que ça a permis de comprendre davantage notre marché et pourquoi on était positionné là où on était positionné et les challenges auxquels on veut faire face dans les années à venir.
Et est-ce que ça... Du coup, entre ce qui était avant et après, je pense qu'on va toujours un peu faire ça avant-après, y a eu des vrais changements de stratégie. Est-ce qu'il y a eu, avec ce travail-là fait, a mis en avant, en lumière, un truc qui fait que on partait, j'exagère, mais on partait complètement d'un côté et en faisant ce travail-là, finalement, on a bien fait parce que sinon, on se serait trompé. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a eu un...
Je pense pas. Justement, c'est là où je te dis, enfin, l'équipe de Mangopay, elle était là depuis l'équipe de Mangopay avant le rachat.
Ouais.
Ça faisait une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'ils évoluaient dans le paiement. Ils connaissaient parfaitement leur secteur.
Okay.
Ils se renseignaient aussi parce que c'est un marché, le paiement, qui est très documenté d'un point de vue strat. Donc, vraiment, les tendances, elles étaient là. Mais le fait de l'écrire et la rigueur que tu... Tu vois, le petit step que tu fais en plus de rigueur quand tu vas segmenter plus précisément ta base, quand tu vas essayer de calculer le potentiel de chaque segment, quand tu sais exactement quel est, de manière connue dans toute la boîte, quel est l'élément du produit
Oui,
où on est en
t'amènes de la
retard.
data. Ouais, t'amènes de la data, t'amènes des éléments qui viennent justifier, permettre de prioriser, du coup, je pense, derrière
Alors, prioriser,
aussi.
c'est ensuite, ça a été
Encore
un autre sujet. Là, c'est vraiment en strat.
autre.
Je te prends une image à plat. On veut attaquer ce marché. On est tous d'accord qu'on veut attaquer ce marché parce qu'il y a du potentiel et on sait qu'on veut y aller dans tel pays et sur tel type de marketplace. On sait qu'on est bon sur ces éléments produits et on sait qu'on est moins bon sur ceux-là. Donc, on est d'accord qu'il faut aller résoudre nos problèmes produits. Maintenant, dans quel ordre? Et justement, la roadmap, on va en
Ça,
parler
c'est
après.
après, ouais.
Mais et franchement, ça a été hyper. L'augmentation de ce niveau d'exigence, ça a plu. En tout cas, moi, je vais parler de mon équipe avec qui j'ai passé énormément de temps. Ça nous a fait énormément de bien. On avait commencé avant l'arrivée d'Advent, mais c'est vrai que le fait de que ce soit posé, ça a été hyper bénéfique pour la team.
Bon, poser cette stratégie, tous commune. Comment on en décline du coup la roadmap qui a beaucoup changé, qui change complètement sur un produit plus ambitieux avec des moyens différents. Comment ça s'est passé? Comment tu justement cette partie roadmap?
Alors moi, quand je suis arrivée, la roadmap, en fonction des squads, il y en avait plus ou moins, quoi. Il y avait des squads qui avaient des roadmaps, il y avait des squads qui n'en avaient pas ou peu. Il n'y avait pas une roadmap globale du produit. Ensuite, c'est un produit tellement différent entre le paiement, la fraude, enfin bon. Donc, j'irais un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Vraiment, quand je suis arrivée et avant l'arrivée d'Advent, le produit était perçu comme une équipe d'exécutants. Moi, c'est une histoire, une anecdote que j'aime bien raconter. À mon arrivée, j'ai plus 4. Enfin, ça faisait 4 jours que j'étais là. Il y a un PMO qui vient me voir parce qu'il y avait des PMO chez Mangopé, alors qu'on était 150, c'est pas si classique que ça. Il y avait toute une équipe de PMO qui vient me voir et qui me dit, mais j'adore être PMO chez Mangopé parce que c'est nous qui gérons la strat et la roadmap. Et là, je me dis, mais dans quelle boîte j'ai mis. Enfin, c'est pas du tout l'image que j'avais de Mangopé, qui était vraiment Startup Nation,
Culture produit forte,
plus
enfin oui, les
pas du
rôles,
tout.
ouais.
Et donc, en fait, je me rends compte très rapidement que finalement, non, c'est pas. Et donc, j'ai eu une discussion pour essayer de bien. Je me suis rassurée sur le fait qu'en effet, c'était un change qui était en cours et qui s'est fait très très rapidement après mon arrivée. Mais c'est vrai que c'était à celui qui créait le steak. Comme le produit n'était pas hyper clair sur sa stratégie, ça laisse le champ à ce que tes stakeholders arrivent et celui qui crie le plus fort va prendre la place dans la roadmap. Et comme voilà, bon, c'était pas, ouais, c'était et je dirais en plus de ça, dans les dirigeants qui étaient en place, il y avait une volonté de définir quels étaient les projets sur lesquels travailler. Il y avait peu d'empowerment des équipes. Donc moi, je me souviens, quand je suis arrivée, il y avait une slide aussi avec, je sais plus, 25 initiatives définies par le COMEX en chambre. Les initiatives étaient des projets. C'était pas des objectifs, c'était vraiment des projets. Et il y avait des équipes qui avaient été attribuées à tel ou tel projet. Donc,
Donc, culture projet plus que produit, en fait.
culture projet. Et donc moi, je suis arrivée et j'ai eu de grandes discussions à l'époque avec tous les C-level pour leur expliquer, pour moi en tout cas, comment je vivais le produit. Et ils étaient très ouverts à tester de nouvelles choses. Le CPO qui était en place avait envie aussi de changer ça. Et donc, on a pu commencer cette transformation à ce moment-là.
Profitez.
Voilà, je pense que ça, c'était vraiment le premier truc qu'il fallait qu'on change. Et la deuxième chose, c'est qu'au sein des squads. Donc la roadmap, pour moi, c'est la première chose, c'est vision, strat, et une fois qu'on a des objectifs, trouver justement les projets pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, tu vas avoir toute la dimension timeline, où là, si tu travailles pas bien avec tes équipes tech, en cohérence, ça marche pas. Et je pense qu'il y avait un deuxième sujet à régler à mon arrivée pour bien poser des roadmaps, qui était comment on crée des squads équipes qui ont toutes compris dans quelle direction on voulait aller et moi, je m'en fous de l'arrivée. Je veux juste savoir, OK, mais on parle de quoi? D'un projet énorme, d'un petit projet, il faut qu'on recrute des gens, faut qu'on développe des squads, je ne me rends pas compte. Donc ça, si tu veux, j'avais moi des PM qui arrivaient avec des équipes tech qui n'avaient pas hyper bien compris dans la direction dans laquelle elles allaient, qui prenaient les projets, qui s'engageaient sur des deadlines sans parler à la tech. Donc la tech voyait ça, était hyper énervée parce qu'il disait bah, « Non, mais on ne tiendra jamais ces deadlines. » Et donc, qui n'était pas du tout investi ensuite à suivre. Bon, bref. Donc, il y avait vraiment ces deux sujets pour régler le problème de la roadmap. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que au-delà du fait que j'ai beaucoup discuté...
au-delà des échanges...
Je pense que un des moments qui a vraiment fait switcher le truc, c'est que... pour le coup, après l'arrivée d'Advent, et une fois qu'on avait posé la strat, c'est qu'on a posé des OKR. Alors, OKR. Je dis OKR parce que c'est un grand mot pour moi dire objectif et résultat chiffré. Fondamentalement, peut-être que ce n'était pas des OKR by the book.
Oui.
Mais on nous a obligés de le faire hyper vite. Et là où c'est là où je te parle de l'arrivée d'un fonds, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu fais les choses, tu n'as plus le temps. Tu fais vite.
Et puis des choses ambitieuses.
C'est
ça aussi. C'est que...
Et donc, on pose les OKR en 2 semaines. En 2 semaines, très, très... Alors, on avait fait tout ce travail de strat quand même, qui nous aidait énormément. Et donc, on pose des OKR hyper ambitieux. Et pour le coup, le deal, c'était OK, on les pose seuls au produit. On ne va pas essayer d'aligner toute la boîte, tant pis, on n'a pas le temps. On le fait. Et on verra dans un deuxième temps avec la tech si c'est tenable et qu'est-ce que ça veut dire en termes de people. Et on ajustera les OKR si besoin. Et voilà. Et en fait, pour moi, ça a été révolutionnaire. Dans le sens où, au moins, c'était posé sur l'année.
Oui.
Et ça donnait une ligne directrice sans pour autant me figer.
Oui.
Puisqu'il y avait un deal qui était un peu bougé.
Oui.
Fondamentalement, on ne les a pas tellement bougés. Parce qu'on a eu la chance d'avoir les moyens de recruter les people. Mais ça a été fondateur dans poser une roadmap, en fait.
Ouais, c'est ça. Poser la roadmap, s'aligner avec les OKR.
Ouais, parce qu'une fois que les OKR étaient posés, les équipes ont trouvé les projets, étaient investis ces projets, ils ont bossé avec les squads pour se dire, OK, de combien de people on a besoin? Est-ce que d'un point de vue archi, on est bien? Est-ce que ça rentre? Et une fois que tout était partagé, la strat, les OKR, les projets identifiés... évidemment que ça bouge, c'était pas du tout figé, donc ça a bougé.
Mais ça donnait un cap, en fait.
Ça donnait une direction.
Et donc, du coup, permettait d'aligner, de donner de la visibilité à tout le monde. C'est le bien fondé, en tout cas des OKR.
Alors ensuite, il y avait des limites. Quand je te dis, on l'a pas fait avec tous les C-levels, enfin, avec toute la boîte, pour moi, ça a été une des plus grosses limites.
Oui.
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement. Alors, c'était toujours aussi un moment où tu as des C-level qui arrivent au milieu du... les OKR sont posés, t'as un nouveau CFO qui arrive.
Et qui change.
Et c'est pas qui change, mais qui met en avant des choses qui manquent clairement dans la roadmap, qu'on avait vues, mais qu'on n'avait pas forcément priorisées.
Oui.
Typiquement, c'est les limites de l'exercice d'aller très, très vite.
Oui.
Mais l'avantage, c'est que la deuxième fois, donc c'est la deuxième année, pour le coup... on n'a pas refait la même erreur. Et avant de rentrer dans les OKR, on a fait un operating plan avec tous les C-levels et tous les seniors de la boîte pour être sûr qu'on fait un plan commun pour l'année d'après qui va dans la même direction. Et pour éviter d'avoir des OKR où il manque
des
features pour...
Je me pose la question de l'impact sur le pilotage, dans la culture, dans... ce qui a été différent, qu'il a fallu s'adapter ou pas, enfin...
Alors, oui, il y a eu un pilotage beaucoup plus rapproché du fait que, de toute façon, Advent demandait des comptes à juste titre, de manière mensuelle. Qu'est-ce que, concrètement, nous, on a mis en place? Alors, ce n'était pas tous les mois sur le produit. Mais c'était un suivi mensuel. Alors, il y avait un suivi mensuel financier, je crois, tous les mois. Ça, c'est sûr. Et donc, forcément, les initiatives ou les projets qu'on lançait au produit impactaient le business plan. Donc, on voyait beaucoup le VP Finance pour discuter de l'avancement des projets. Et ça marchait bien. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place, nous? On a mis en place plusieurs choses et on les a fait évoluer. On avait un weekly.
Ouais.
Très tech produit.
Ok.
Où on voyait ses OKR et le suivi des projets. Univers par univers, les trois univers dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça nous permet de lever l'alerte quand il y avait des problèmes, soit internes au squad, soit externes. Je pense typiquement dans le paiement, tu travailles avec beaucoup de partenaires, donc tu as un sujet de contrat légal
qui
peut
juridique,
bloquer
contrat. Ok.
tes roadmap.
Oui.
Et le deuxième point, je pense, alors ça c'était vraiment pour régler nos problèmes en interne. Et puis, tu avais un deuxième sujet qui était la communication externe avec les stakeholders. Et on a mis en place une business review toutes les 2 semaines. Et en fait, au début, on l'avait mis vraiment avec les stakeholders principaux du produit. Puis globalement, avec le temps, il y a eu de plus en plus de gens qui se sont joints
Ouais.
à ce meeting. Donc, il était hyper structuré. On voyait l'avancement univers par univers des projets.
Ouais.
Tout le monde était libre pour poser des questions. Et puis, tout était retranscrit. Enfin, c'était filmé.
Ouais, filmé,
et
culture de
ensuite,
l'écrit. Ok.
Restitution écrite,
Ouais, qui
accessible,
permettait.
ouverte à tout le monde.
15 jours, ça me paraît hyper vite. Enfin...
Ouais, mais en fait, on était sur des sprints de 2-3 semaines et en fait, il se passait pas mal de choses.
D'accord, ok.
Je suis d'accord avec toi, 2 semaines, c'est challengeable.
Ouais.
On aurait pu faire moins. Mais c'est une manière de juguler la pression.
Oui.
Quand t'as, je pense. Quand tu vois un fonds d'investissement tous les mois, avoir un petit éviter le tunnel de
Ouais,
un
du mois,
mois
ouais.
pour les gens qui ont besoin de savoir si ça se passe bien ou si ça se passe mal, c'est important parce que je te dis n'importe quoi. On avait des features pour aider les équipes support à absorber un certain nombre de problèmes. Si ça prenait du retard, ça voulait dire potentiellement que ils recrutent différemment ou qu'ils adaptent eux aussi leur stratégie. Et c'était pas.
Ok.
C'était très utile pour eux aussi.
Ok. On y vient, mais le changement de culture. Changement de. Je ne sais pas si c'est un état d'esprit, mais en tout cas, avec ce qui était mis en place, est arrivé. Comment ça s'est passé? Quand je parle de culture, c'est culture produit, on en parle, mais ça peut être aussi avec les équipes, dans la relation, etc.
Alors ouais, dans ce que je t'ai raconté déjà tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de choses que tu
Ouais,
vois d'un point de vue culture. Mongopé, c'était vraiment une entreprise de copains où ça fonctionnait à l'intuition, la connaissance. Hein, il y avait beaucoup d'expertise, mais beaucoup d'intuition. Et c'était aussi, et il y avait beaucoup de respect les uns envers les autres et de volonté de comprendre et d'apprendre. Et il y avait aussi une logique très hiérarchique. Mais pas au mauvais sens du terme, mais c'est vrai que c'était très. Le pouvoir de décision était très centralisé au niveau du COMEX. Quand je t'ai dit que les initiatives étaient décidées. Donc il y avait un pouvoir de décision très centralisé. Je donne un autre exemple. Le CEO, Romain, dans mon souvenir, c'était quand il allait voir le Arkéa, il était seul. Alors qu'aujourd'hui, les réunions avec le fonds d'investissement, c'est avec tous les C-level. Chacun est responsable de son périmètre. L'autre manifestation, je pense, de ce.
Changement.
Non, justement, de ce pouvoir assez
Ah oui.
centralisé, c'est que
Oui.
les équipes, elles n'arrivaient pas avec des solutions. Elles arrivaient avec des problèmes. Je me souviens,
D'accord.
moi, pareil, mon premier mois, je récup. Enfin, les PM viennent me voir en me parlant que de problèmes. Je dis OK. Et alors?
Ouais.
Eh ben alors, j'ai mes problèmes. OK.
Et
Donc, la prochaine. Enfin, tu sais quoi? On va se revoir dans 2 heures ou dans la semaine prochaine. Et tu, face à ces problèmes, commence à réfléchir à des plans.
Ouais.
Je disais souvent, je suis votre punching ball, mais je suis pas non plus une magicienne, j'ai pas de baguette magique.
Ouais.
En revanche, on peut se challenger pour trouver des solutions et trouver la bonne méthode aussi pour
Ouais.
avancer dans ces solutions. Et donc, il y avait vachement ça. C'est-à-dire que évidemment que c'était le pouvoir était centralisé, mais l'impact c'était que les équipes étaient aussi désempowerées.
Oui, je comprends, ouais.
Et ça, pour le coup, ça a fondamentalement changé.
Ouais.
Je pense que ce qui a fait que ça a changé, bon, bah, l'ambition et la pression qui vient avec
Oui, oui,
la
oui,
levée de
oui.
ses investisseurs,
Oui.
le COMEX
Ouais.
a changé
Oui.
et la responsabilité des tâches
Oui.
a changé. Il y a des senior leaders qui sont arrivés avec cette culture d'empowerment pour
OK.
empower les équipes. Clairement, bon, je vais parler moi au sein de la team, on est rentré dans une culture de l'empowerment. Je pense qu'au bout de 3, 4, 5 mois, disons 6 mois, j'avais plus d'équipe qui venait avec que des problèmes, mais il y avait toujours des solutions, des propositions de solutions. Le fait d'arrêter de travailler tout seul et de oser, c'est parce que je pense que fondamentalement, ils avaient envie, mais d'aller oser travailler avec les stakeholders, oser travailler avec les techs, et de se baquer comme ça. Enfin, c'est pas se baquer, c'est se conforter dans leurs décisions, dans leurs choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de big change, c'est l'internationalisation. Quand tu passes dans une scale-up comme ça. On était dans un univers où on avait... je te disais tout à l'heure, on n'était pas franco-français, mais quasi, quoi. On parlait français toute la journée, même si on écrivait anglais. Et on est passé... pour le coup, à une culture totalement européenne, avec des bureaux ouverts partout en Europe, enfin dans 4 ou 5 pays. On est passé en anglais tout le temps, et vraiment, le choc des cultures. Et je pense que moi, je vais te raconter d'autres anecdotes. Celle qui me fait marrer, c'est l'été dernier. J'ai la nouvelle head of product sur la partie expérience qui était anglaise ou anglo-saxonne, qui m'appelle, qui me dit j'ai machin qui m'a posé 3 semaines de congé en août. Qu'est-ce qui se passe?
Je vois le côté culture.
Ah oui.
Oui, c'est août.
Oui, mais on est en France.
C'est août.
Et donc voilà, enfin c'est il y a d'autres en Allemagne à 17h, ils s'arrêtent de bosser. Vraiment, sharp. Donc, il n'y a pas de réunion après 17h.
D'accord.
Bon, voilà, c'est ce genre de choses.
Ouais, c'est
OK. En fait, tu te rends pas compte, mais finalement, ça impacte ton agenda, ça impacte ta manière de faire. Au-delà de la langue, il y a vraiment des cultures différentes.
Oui, c'est ça, du rapport.
Il y a des gens qui sont très francs, des gens qui prennent plus de pincettes. Enfin, voilà. C'est ça, génial. Je pense que ce n'est pas forcément une histoire de pays, mais pour le coup, tu le vis clairement.
Ouais.
Et puis, le troisième sujet pour moi en termes de culture.
Ouais.
C'est le passage à la culture de la perf.
Intéressant.
Donc ça, tu le vois, hein, je te dis, culture de l'intuition, on se faisait confiance.
Oui. On essaye, on voit.
Pas d'éval d'équipe.
OK.
Peu.
Ouais.
Peu de data, peu de rationnel.
Ouais.
C'est celui qui crie le plus fort qui passe dans la roadmap, même s'il y a beaucoup de respect les uns vers les autres, mais c'est quand même comme ça.
Ouais.
Et donc là, non, c'est fini.
Ouais.
Pour le coup, la culture de la performance, je pense que c'est un des sujets qui a été pris le plus rapidement. La première chose, c'est passé par la partie RH.
Oui.
Donc, tu mets en place des évals.
Oui.
Moi, je suis hyper favorable à ça.
Oui.
On en a un peu parlé.
Oui, ouais, effectivement. Ouais.
Mais tu reviews tes people. Tu te forces à prendre des exemples pour illustrer tes points.
Oui.
On a même intégré, je me souviens, dans la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a intégré les valeurs de la boîte dans les reviews, pour être sûr que...
Que toi, à partager. Exactement. Ouais,
ouais. Donc, t'avais les reviews du tour manager, les évals 360, le fait qu'on reviewait toutes les équipes à plusieurs pour vraiment se dire, il n'y a pas de favoritisme, on essaye de faire en sorte que les équipes, que la méritocratie soit respectée.
Oui. Et puis, un alignement des équipes sur les valeurs.
Ouais. Et puis, on est clairement dans une culture où il y a plus de chiffres, quoi. Tu ne peux pas arriver en disant, je pense qu'il faut faire ce sujet. Non. C'est quoi le business case? On développe des frameworks. On a mis du temps, justement, à les développer, ces frameworks.
Ouais.
On impose qu'il y ait des frameworks avec des business cases qui justifient pourquoi on pense qu'on va y arriver. Alors, tu n'as pas tout le temps toutes les datas,
mais en
revanche, tu t'appuies sur des choses, quoi, pas rien. Et ça, c'est vrai que c'est très, très nouveau et ça fait beaucoup de bien au produit, dans le sens où tu sais pas que toi et ton pif. T'as aussi, tu sais, tu justifies pourquoi et ça fait du bien aux équipes de se raccrocher à la valeur qu'ils vont réussir à produire avec ce projet. Donc ça a été fondamentalement un big change pour le produit. Voilà en gros pour moi.
Top. Franchement, merci beaucoup de partager, d'avoir partagé tout ça. Avec tout ce que tu as vécu, les différentes entreprises ou autres, ou contextes, ça, aujourd'hui, tu t'interroges sur quoi? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu t'interroges, en tout cas, tu as envie de creuser un sujet en particulier?
Moi, il y a deux sujets qui m'animent, enfin, qui aujourd'hui m'animent. Le premier, c'est la data.
Ouais.
Je suis passée par des boîtes où j'ai toujours mes BFF, ça a toujours été quasi, enfin très vite les mecs de la data parce que moi, j'arrivais pas à piloter sans ma data. Alors, je l'ai moins fait chez MongoPay,
Ouais.
mais beaucoup chez Solocal
Oui.
et chez QuickSign.
Et la data pour venir justifier
Pour moi, la
la
data,
data, comment?
quand je te parle de data, c'est assez varié. C'est-à-dire que je vais avoir la data. Bon, la data monitoring, ça, j'ai jamais eu de problème dans le produit. Ça fait. Enfin, j'étais tellement dans des boîtes où il y avait une prod lourde que la data monitor, elle est toujours là. Et bon. Non, moi, je te parle de globalement la data business.
Ouais.
La data usage
OK.
et la data que tu vas qui correspond à ton OKR. Donc, je vais donner des exemples. La data business, c'est OK, chez MongoPay, on veut attaquer tel et tel segment, combien passe ces segments, combien on veut signer de deal dans tel pays, ça va représenter combien en volume
Ouais.
de paiement en plus. Vraiment un business plan, quoi.
OK.
La data usage, c'est je fais de la carte. La carte, c'est une conversion
Ouais.
que je dois suivre à travers un tunnel de conversion en plusieurs étapes. Cette conversion, je dois la comprendre, je dois la suivre, je dois la piloter et je dois l'améliorer en permanence.
OK.
Ou alors, ok, je comprends, enfin, je fais une analyse sur une fonctionnalité de la carte. Préautorisation. Il y a des contournements de la feature. Il faut que je la comprenne et je
Ouais.
fais des exports data pour essayer de la comprendre.
Ok.
Et je crunch la data pour essayer de la comprendre. Et
Surtout, surtout.
ce que j'ai du mal, moi, à avoir dans c'est ce que j'ai le
Ouais.
plus de mal à avoir dans la partie produit.
Ok.
Parce qu'en fait, il y a pas mal de watch, je trouve, qui ont déporté ces analyses dans d'autres départements. Et donc, j'ai plutôt
Ouais.
peu vu ce skill dans les équipes produits que j'ai managé. Et la troisième chose, c'est ton OKR. Je sais pas, moi, je veux réduire je veux automatiser un certain nombre de tâches et réduire le temps de travail des équipes finance en lançant tel ou tel feature. Comment je le suis dans le temps ou dans le trimestre ou dans l'année. Voilà. Et ça, donc pour moi, c'est les data que j'utilise au produit. Et autant j'ai acquis et construit mes propres frameworks sur pas mal de choses dans le produit,
Ouais.
adaptées de choses qui existent, parce que je ne vais pas réinventer la roue non plus. Autant sur la data, tu vois, j'ai pas un framework que j'arrive à appliquer direct, un cockpit data que.
Ouais.
Et je pense que c'est une erreur énorme de pas le faire dès que tu arrives dans une boîte. Pour moi, c'est comme la partie managériale. Tu arrives, tu as besoin de comprendre ton équipe.
Ouais.
Tu as besoin de savoir ce que tu peux leur apporter, leurs forces, leurs faiblesses.
Ouais.
Bah, c'est pareil pour ton produit. Tu arrives, tu dois avoir construit ou faire construire un cockpit pour piloter ces trois axes le plus vite possible. Et si tu n'as pas les datas, soit tu t'appuies sur ce que tu as, Kali, peu
Ouais.
importe, soit tu communiques de telle sorte que ça devienne une priorité dans la boîte. En tout cas, à mon niveau, je me mets cette mission-là. Et je trouve que je l'ai pas, tu vois, j'aimerais bien
Réussi.
réfléchir à
Ouais.
comment je peux mieux le.
À ce fameux cockpit, en fait.
Et puis, la deuxième chose qui m'anime aujourd'hui énormément, c'est la partie valeur.
Ouais. Valeur
Valeur
d'entreprise,
d'entreprise.
Ouais, ok.
Valeur d'entreprise, comment t'arrives dans le temps à faire en sorte que les valeurs qui sont le plus importantes pour toi, moi je peux te parler de
Ouais.
celles qui sont importantes pour moi,
Ouais.
vivent et continuent à vivre malgré tout,
Ouais, le...
toutes ces évolutions.
Ouais.
Et moi, pour moi, c'est vrai que j'ai besoin de l'exigence.
Ouais.
Ça, pour le coup, chez
Ouais.
MongoPay, j'ai été servie. J'ai besoin de la transparence.
Oui.
et j'ai besoin de la collaboration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, à partir d'un certain niveau de seniorité, je pense que tu peux y contribuer en discutant avec les C-level et en faisant en sorte d'infléchir un petit peu
ouais.
la direction que prend la boîte. Et ça, c'est pareil, c'est un des axes que j'aimerais bien développer dans les prochains mois, prochaines années.
Ouais, c'est ça, comment on arrive à le pérenniser dans le
Ouais.
temps, sur les personnes
Ouais.
qui rentrent, qui partent. Et je pense que la plus grosse difficulté, c'est, ok, souvent on les pose, on sait que c'est un constat, mais comment elles vivent en fait?
Exactement.
Comment elles
Ah, mais c'est
continuent
exactement.
de vivre, comment tu les fais vivre, évoluer au quotidien, qui sont des valeurs, tu dis exigence. Oui, on est exigeant dans ce qu'on fait, mais matériellement, comment ça se fait, comment on le maintient? Je pense que c'est un vrai sujet, mais qui m'intéresse aussi, et on se le disait aussi effectivement, comment réussir à le garder, parce que c'est l'ADN de ton entreprise et autres, qu'il faut pas pervertir, c'est un grand mot, mais en tout cas, ouais, qu'il faut pas
Ouais.
changer, ouais.
Ouais, et je pense que ça, pour le coup, je pense que c'est un truc. Ensuite, tout dépend des personnes, mais moi, en tout cas, ça me touchait moins quand j'étais junior parce qu'en fait, j'apprenais tellement de choses
Ouais.
sur mon métier que
Oui,
j'étais
oui,
moins sensible à ça.
oui.
Et
Oui, c'était moins le driver. C'était
en tout cas,
moins.
c'est, j'avais peu d'impact. J'avais l'impression que j'avais peu d'impact.
Ouais.
Aujourd'hui, je pense que je peux avoir beaucoup plus d'impact sur ce sujet,
Ouais.
mais ça nécessite d'y passer du temps,
Oui.
d'y mettre de l'énergie,
Oui.
d'essayer d'aligner les gens,
Oui.
de prouver
Oui.
pourquoi telle ou telle pratique
Oui.
qui correspond à une valeur qui est importante pour toi,
Oui.
permettra à la boîte d'être plus productive, plus...
Oui, qui y répond. Je sais pas si c'est une histoire de juniorité
Je sais pas.
ou je.
Je te dis, moi, je parle personnellement. Je
Ouais,
sais qu'en tant que junior, je
c'est.
me sentais moins...
Ouais.
Je sais que toi, tu...
Ouais, j'ai.
tu luttes. Tu luttes pour que, dès le début...
Ouais, c'est ça, dès le début, et que c'est du sens et que ça doit être une motivation intrinsèque. Mais bon, on pourrait en parler pendant des heures. Écoute, déjà, on a passé un super moment. Merci beaucoup
Je t'en prie.
de ce que tu nous as partagé. J'espère que ça va en inspirer, donner plus de visibilité à d'autres. Merci encore.
Je t'en prie, merci de m'avoir reçu et pour ton temps.
Merci.